Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le retour du service militaire, nouvelle génération. Et pour les volontaires, le projet est dans les cartons et l'annonce est même imminente. On va tout vous expliquer. La bataille contre le narcotrafic. Le maire de Marseille appelle à la mobilisation demain lors de la grande marche blanche organisée dans la deuxième ville de France. Et l'agression de trop à Tourcoing. Un médecin frappé pour une simple remarque. Ses collègues en droit de retrait jusqu'à demain.
Un service militaire nouvelle génération et pour les volontaires est donc bel et bien en préparation.
Dans la foulée des propos du chef d'état-major des armées qui a alerté cette semaine sur l'imminence d'un choc avec la Russie dans les années qui viennent, en disant qu'on devait être prêt à perdre nos enfants. Sous-entendu, être prêt à avoir des pertes, comme le précise son porte-parole.
Une guerre de haute intensité, c'est entre 200 et 1000 morts par jour. Un pays qui n'est pas prêt à connaître ça, à comprendre ça, c'est un pays qui est faible.
Alors, au-delà de cette formule qui a fait grand bruit, Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, vous nous dites que l'exécutif assume cette préparation des esprits à la menace russe et qu'Emmanuel Macron annoncera dans les tout prochains jours un service militaire, donc nouvelle génération sur la base du volontariat.
Oui, le projet est sur le bureau du président depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron veut donner à la jeunesse un cadre pour servir. Il l'avait annoncé à la veille du 14 juillet. Dans un moment de bascule, expliquait-il, où notre liberté n'a jamais été aussi menacée. Il n'est pas question de revenir au service militaire obligatoire. Nos armées n'en auraient pas les moyens, mais plutôt de relancer un service volontaire destiné à former une armée de réservistes en renfort de nos militaires qui resteront professionnels. Cela pourrait commencer par 10 000 jeunes la première année, avec des incitations bien plus fortes que ce qui existait jusqu'à présent avec le SNU par exemple. La question d'une rémunération est à l'étude. L'ambition au plus haut niveau de l'État, c'est bien de préparer les esprits et de susciter des vocations, confirme une parlementaire connaisseuse du dossier.
Et alors, c'est important de bien comprendre s'il y a une forme d'agitation en ce moment à ce sujet. C'est parce que notre armée n'est pas assez grande pour faire face aux défis qui viennent. Voilà ce qu'explique ce matin sur RMC le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
Tous les services de renseignement européens qui ont des sources différentes disent oui, il y a un risque et ce risque est grand. Et on ne peut pas ne pas prendre en compte le pire. Et donc il faut se préparer à ce pire. Pourquoi 3 ou 4 ans? C'est un pari, c'est une hypothèse. Mais on peut penser que la guerre en Ukraine se terminera dans l'année à venir. Et donc on sait que pour l'armée russe, il faudra 2 à 3 ans pour se remettre en état de reprendre son agression vers l'ouest sur un des points faibles de l'Europe qui pourrait être les Pays-Baltes par exemple.
Et ça, au moment où en Ukraine, Volodymyr Zelensky se dit prêt à travailler avec les États-Unis sur le plan américain qui reprend en fait les conditions russes pour mettre fin à la guerre.
Ce climat, presque va-t-en-guerre, un peu bruit de bottes. Ce climat, ce débat sur le service national, il vous interpelle, c'est sûr, vous continuez à réagir au 32-16 ce matin. Il est 8h03 sur RMC, il y a aussi dans l'actualité une autre guerre, celle contre le narcotrafic.
Elle est très dure, assume le gouvernement à la veille d'une marche blanche, en hommage demain donc aux frères du militant anti-drogue assassiné la semaine dernière à Marseille, Amine Kessassi, ce militant. Le maire de Marseille, Benoît Payan, appelle à la mobilisation. Donc demain, la société marseillaise doit se réveiller. Ça, c'est ce que disent les ministres Laurent Nunez et Gérald Darmanin dans le journal La Provence. Ce matin, Anna Jaujard, vous êtes dans la deuxième ville de France pour RMC. Est-ce que les Marseillais iront à cette marche blanche demain ?
C'est une évidence pour Anna Néhérine, étudiante à Marseille, de s'y rendre.
On se sent concernés en fait, parce que on est Marseillaise aussi, ça touche notre ville.
Elles y seront pour rendre hommage à Mehdi Kessassi, mais aussi pour dire non au narcotrafic.
Ça ne doit pas nous taire, ça ne doit pas nous enlever la parole, ni enlever les combats qu'on veut défendre.
Voilà, au contraire, il faut se lever pour soutenir sa famille, quoi.
Et puis soutenir le combat et se dire que on est là et que malgré ça on continue quoi.
Plus loin, Sarah, une autre Marseillaise s'interroge.
Une marche blanche, oui, à la mémoire du défunt, c'est bien, mais est-ce que ça changera réellement les choses? Il y en aura encore malheureusement, donc je suis découragée dans le sens où on se retrouve quand même impuissant.
Oui, cette marche peut changer les choses pour Benoît Payan, le maire de la ville.
J'appelle les Marseillaises et les Marseillais, et plus largement les Françaises et les Français, à venir à dire on n'a pas peur, à dire on est debout, à dire la République est debout, à montrer qu'on est un peuple uni, qu'on doit rester un peuple uni.
Amine Kessassi, à l'origine de cette marche, appelle à descendre dans la rue par milliers. Levez-vous, battons-nous, dit-il.
Les médecins en ont ras-le-bol dans la région de Lille, je vous le disais, et ils font valoir leur droit de retrait. Pourquoi ? Il n'y aura pas de permanence jusqu'à demain chez SOS Médecins après une nouvelle agression de soignants. Agression de trop, c'était mardi, Constance Bostoen, un médecin frappé à Tourcoing pour une simple remarque. SOS Médecins parle carrément d'une expédition punitive.
Oui, car tout est parti d'une remarque dans la salle d'attente. Un médecin, excédé par le comportement bruyant d'un enfant, demande à sa mère d'intervenir.
La dame n'apprécie pas du tout. Il y a quelques échanges, ça monte un petit peu. Il rentre dans sa salle d'examen, il continue son examen.
Serge Bomoko, le président de l'antenne SOS Médecins de Roubaix-Tourcoing, est présent quand, quelques heures plus tard, la mère de famille revient avec son mari.
Le monsieur se jette sur son bureau, il fout tout en l'air et il contourne le bureau, il va l'agresser de l'autre côté, il le saisit, il le pousse violemment. Le confrère tombe à la renverse, il reçoit un coup de poing.
L'agresseur présumé s'est présenté spontanément au commissariat mercredi. Il a été placé en garde à vue, mais dans les antennes SOS Médecins du département du Nord, les soignants craignent désormais quotidiennement pour leur sécurité.
Une situation très grave, hein. C'est une expédition punitive. Moi, ça fait 30 ans que je fais médecine, mais j'ai jamais vu ça.
Dans le département du Nord, depuis le début de l'année, l'Ordre des médecins dénonce déjà plus de 300 agressions de soignants.
Prudence encore ce matin sur la route avec la neige et le verglas. Géraldine n'arrête pas d'en parler, encore des soucis de circulation. Il y en avait hier soir dans Lyon. Il y en avait aussi ce matin, mais ça y est, ils sont réglés sur la N88 en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay. Le ministère des Transports prédit un week-end assez compliqué. Il neige. Et ça tombe bien, il y aura l'ouverture des premières stations de ski ce week-end dans les Alpes, Tignes, Val Thorens, la montagne qui est en pleine bascule. Un tiers des moniteurs de ski pensent à une reconversion en station face au manque de neige par endroit, d'après une enquête Ipsos pour le syndicat national des moniteurs du ski français.
Et à 8h06 sur RMC ce matin, vous posez la question qui fâche, Quentin Vinet. Mmh. Où sont passés nos bleus du rugby?
Ils font de grosses audiences, mais ils sont méconnaissables. Pendant cette tournée d'automne, à Wilfried Templier, rédacteur en chef rugby à RMC, ils vont rejouer demain contre l'Australie au Stade de France, troisième match de la tournée, après une défaite contre l'Afrique du Sud et une victoire pénible contre les Fidji. Ils disent eux-mêmes que ça va pas fort.
Oui, on les avait quittés triomphants, levant le trophée des Six Nations, mais 8 mois plus tard, on peine à retrouver ces Français conquérants et spectaculaires. Le deuxième ligne, Thibaut Flamand, fait ce même constat.
Le tournoi 2025, c'était il y a pas si longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans la même dynamique. C'est vrai que depuis le début, c'est un peu moyennasse, mais on est bien conscient des prestations qu'on rend. Mais c'est sûr que ouais, il y a cette frustration que tout le monde a. Hein.
Comment les Bleus ont-ils pu perdre le fil de leur attaque qui a établi un record lors du tournoi avec 30 essais marqués? Le sélectionneur Fabien Galthié réclame du temps et de la patience.
On croit qu'on a des bases qui sont acquises, mais en fait non. Quand on retrouve les joueurs, notre organisation n'est pas du tout la même que celle des clubs. Il faut retrouver les réflexes individuels et collectifs et ensuite la confiance. Donc il y a tout un travail. C'est comme ça, 9 mois plus tard, il faut le reprendre.
Mais l'Australie, c'est déjà le dernier match de la tournée. Alors, au-delà des considérations tactiques, Flamand a une priorité.
De prendre du plaisir, de se lâcher, d'oser, de tenter, de faire preuve de panache, de se régaler, quoi.
Et retrouver des Bleus capables à nouveau d'enflammer le Stade de France.
Alors, avec les Bleus, demain, exceptionnellement, il y aura le début de la 10e journée de Top 14 entre Bordeaux et Pau. Ce soir, ce sera à 21h. Et pour ceux qui préfèrent le foot, il y aura le derby bouillant du Sud-Est, 20h45, à vivre sur RMC, entre Nice et Marseille, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1.
Merci beaucoup, Quentin Vinet. Quelle ouverture de la Ligue 1, justement. Bah tiens, vous savez quoi? On va aller à Marseille. Vous parliez de Nice-Marseille. On va accueillir Ben au 32-16 qui nous appelle ce matin. Bonjour, Ben.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Vous êtes commerçant dans le CBD, Ben.
C'est ça, exactement.
Et vous avez réagi à notre débat sur la légalisation du cannabis. Vous dites qu'il vaut mieux légaliser.
Il vaut mieux légaliser parce que j'ai envie de faire prendre conscience à ceux qui ne connaissent pas le domaine qu'il y a vraiment un problème de santé publique avec tout ce qui est synthétique. Donc, pour en deux mots, pour vous expliquer, donc moi, ça fait déjà 3 ans, 4 ans que je suis dans le CBD.
Ouais. Le CBD, je le rappelle, hein, c'est la même plante, mais sans le principe actif est illégal.
C'est ça, ça a été des molécules qui ont été levées, en gros le THC, où il y a un pourcentage de 0,02% de THC, et c'est illégal en Europe. Donc du coup, il y a 3 ans en arrière, il y a les Suisses qui ont fait un gros marché dans ce domaine de CBD, qu'ils ont commencé à vendre un peu dans toute l'Europe, et petit à petit, ils ont commencé à chercher autre chose qui fait, on va dire, des psychotropes. Vous voyez, quand on fume le THC, on a une molécule, c'est un peu psychotrope, quoi, si vous voyez.
Ouais.
Et ils ont inventé des molécules synthétiques, comme le HHC, HHCP.
On en a parlé, oui, ça, des trucs assez dangereux qui étaient en vente libre un temps avant d'être régulés. Pour vous, il faut une légalisation contrôlée depuis le sol français, c'est ce que vous dites, Ben?
Exactement. Quand vous regardez du business model,
je me permets parce que très bien, vous parlez de business model. En fait, vous parlez aussi du business dans lequel vous pourriez vous développer si vous vendez déjà du CBD.
C'est très simple. En Espagne, quand vous allez consommer dans un social club, on vous prend votre identité, on vous prend en photo, on vous vend un certain grammage.
C'est contrôlé, c'est réglementé.
C'est contrôlé, exactement.
Bon. Ben, d'un mot juste, parce que vous êtes à Marseille. Bon. Je suis obligé de vous poser la question. Vous allez aller à la marche contre le narcotrafic demain?
Sincèrement, je ne pourrais pas y aller, mais je vais suivre ça.
Ok, merci Ben. Merci de votre coup de fil au 32-16 ce matin. Ben, commerçant marseillais dans le CBD, qui a un regard sur une légalisation, quand on parle de légalisation du cannabis, il a un regard économique aussi, mais il plaide pour quelque chose de contrôlé ici en France. Tout autre chose, 8h10, on va parler de la pauvreté avec vous, Manu Le Chypre, c'est l'heure de la chronique éco. Manu, la pauvreté s'intensifie en France et surtout, elle touche des profils de plus en plus variés.
Oui, depuis 1995, le Secours catholique ausculte l'évolution de la pauvreté en France à travers les profils des gens qu'il aide. Et la 30e édition du rapport qu'il vient de publier montre d'abord que la pauvreté s'aggrave. Le niveau de vie médian de ceux que le Secours populaire accueille a diminué, 565 euros par mois. C'est 100 euros de moins qu'il y a 10 ans. Pire, une personne aidée sur 4 n'a absolument aucune ressource. C'était 1 sur 10 il y a 10 ans. La pauvreté touche de plus en plus les femmes et notamment les mères célibataires, de plus en plus d'immigrés, de plus en plus de ruraux, de plus en plus de gens malades, handicapés ou inaptes au travail. Et surtout, avoir un emploi ne protège plus de la pauvreté, même en CDI. Les Restos du Cœur aboutissent à peu près aux mêmes conclusions.
Oui, et j'insiste, 565 euros, ceux qui sont aidés, c'est le niveau de vie médian. La moitié est au-dessus.
Ouais.
L'autre moitié est en dessous de 560 euros.
Exactement.
Au niveau de l'ensemble des Français, on en sait plus sur leurs difficultés financières et sur ce dont ils se privent.
Oui, et ça c'est un travail récent de l'INSEE qui mesure les privations réelles dont souffre l'ensemble des Français, ce qui est beaucoup plus riche d'enseignements que la simple mesure du taux de pauvreté qui souffre de beaucoup de problèmes statistiques. En fait, en 2024, il y avait 8,6 millions de personnes qui vivaient dans un logement ordinaire et qui étaient en situation de privation matérielle et sociale. C'est quoi être en situation de privation matérielle et sociale? Eh bien, c'est ne pas être capable de faire face à au moins 5 des 13 grands postes de dépenses recensés par l'INSEE. C'est beaucoup plus que au cours des 10 dernières années.
Mais qu'est-ce qu'on n'a plus les moyens de se payer, Emmanuel?
Alors, par exemple, les Français peinent de plus en plus à faire face à une dépense imprévue de 1000 euros. Il y a presque 3 Français sur 10 qui ne sont pas capables, si jamais ils ont un problème, de mettre 1000 euros sur la table. De plus en plus de Français qui ont des difficultés à remplacer les meubles usés ou abîmés, à se chauffer correctement, 2 fois plus qu'en 2014 sur la difficulté à payer ses factures de chauffage. S'acheter des vêtements neufs aussi, malgré tout ce qu'on entend sur les sites de vêtements bon marché, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, leur crédit, leur facture ou même évidemment une nouvelle voiture. Il n'y a qu'un seul poste où ça s'améliore un petit peu, parce que manifestement c'est un poste que les Français veulent sacraliser, c'est le poste des loisirs et notamment pouvoir s'offrir une semaine de vacances. Les Français sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'offrir une semaine de vacances.
Vêtements pour offrir une vacances aux enfants, notamment. Merci Emmanuel Le Chypre, ces chiffres édifiants sur la pauvreté en France. Il est 8h13.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
8h17 sur RMC, c'est l'heure du meilleur d'Arnaud de Manche.
Nicolas Dupont-Aignan a organisé le congrès de son parti, Debout la France, c'était ce week-end.
Oui, Nicolas Dupont-Aignan, qui est à la fois le fondateur de Debout la France, son président et également son membre, seul et unique membre. Mais à Debout la France, on privilégie la qualité à la quantité. Alors le parti au grand complet était réuni à la salle municipale de hier, c'est la ville la plus cool de France. La salle qui avait accueilli déjà cette semaine d'autres sommets politiques comme le pot de départ en retraite de Monique Martinez, la secrétaire de Julien Cosnefroy, le vice-adjoint au sport de la mairie. On ne les présente plus. Nicolas Dupont-Aignan a appelé à la destitution d'Emmanuel Macron et après, le meeting était fini. Alors il a éteint les lumières et il est allé rendre les clés à l'accueil de la mairie.
Merci Nicolas, tu t'es amusé avec tes copains?
J'ai pas de copains, mais oui, je me suis bien amusé.
T'as rangé les chaises?
Non, j'ai pas trouvé de chaise, mais on s'en fout, on est Debout la France. Alors vous le savez, Apolline, j'ai une passion cachée pour Debout la France. Je suis allé visiter le site du parti. Il y a une boutique dans laquelle vous pouvez acheter des livres, mais aussi, plus surprenant, pour 17 euros, il y a des savons Debout la France.
Mais non.
Pour se laver, car moi, Tous les matins, j'aime me laver avec le savon Debout la France. C'est comme si je prenais ma douche avec Nicolas Dupont-Aignan. Avec mon savon Debout la France, comme lui, je peux sentir la loose toute la journée. Avec ses extraits de somme, son huile de jojobarge et son odeur de rance, le savon Debout la France pour le plus raté des réveils. Debout la France, parce que je ne vaux rien.
L'amour est dans le pré reprend.
Ah oui, j'adore. C'est bucolique. On peut voir des cultivateurs faire des papouilles à des assistantes dentaires dans des champs de colza. C'est super. Alors en ce moment, c'est les étapes du speed dating. Et donc, alors, parfois, ils offrent à leurs prétendantes des cadeaux venus de leur exploitation. Ils ramènent du vin quand ils produisent du vin, du fromage quand ils produisent du fromage. Tu marques moins de points si tu produis des betteraves. C'est vrai que, Apolline, hein, une betterave au premier rendez-vous, vous y allez?
C'est bon, les betteraves.
Tous les produits ne marchent pas en speed dating. Oh, tu m'as acheté une chèvre. Ben non, c'est la deuxième prétendante. T'as aussi la séquence horrible de celui qui a pas eu de courrier. C'est-à-dire, M6 a émis le paquet pour le vendre. Alors, Martin, tu as 57 ans, tu habites avec ta mère dans une ferme isolée à moins de 75 km d'Issoudun, et tu es célibataire depuis...
Bah depuis 57 ans.
Oh, et t'as jamais eu de copine?
Bah non.
Alors c'est quoi tes passions?
La taxidermie. J'en fais dans le garage. En fait, je vais me promener dans la campagne et quand je trouve un furet mort, je mets de la paille dedans, ça fait comme une statue.
Eh ben, c'est chouette. Alors, mesdames, si vous voulez empailler des furets morts avec un puceau de 57 ans qui vit chez sa mère à moins de 75 km d'Issoudun, vous contactez l'émission. Trois semaines plus tard, je suis désolé, je comprends pas, personne t'a écrit.
Oh, bah merde. Bon, bah c'est comme ça. Je vais aller fourrer un cadavre de renard avec de la paille, ça va me détendre.
Et alors après, il y a le séjour à la ferme. Et ça, je trouve ça dingue. Enfin, depuis quand vous pouvez ramener deux nanas chez vous pendant une semaine pour les tester? Allez-y, hein, essayez. Après un speed dating, allez voir les meufs et faites « Bon, alors toi, vous venez chez moi une semaine, je vous prends toutes les deux et je vous préviens, on filme tout. » Vous savez, on passe notre temps à expliquer aux gamins que le porno, c'est pas réaliste, mais alors ça dérange personne de montrer deux femmes enchantées d'aller inséminer des truies chez un couple qu'elles ont enfin, ça détend quand même comme émission.
En deux de manche qu'on retrouve lundi, bien sûr, en direct à 7h20 et 8h20 avec Apolline de Malherbe.
RMC vous offre 120 000 euros.
L'heure est grave. La musique est joyeuse, mais l'heure est grave. Le moment est solennel, puisque le jeu s'arrête lundi. C'est maintenant. C'est maintenant que vous allez pouvoir jouer pour essayer de gagner 120 000 euros. Alors, en réalité, il y a 100 000 euros pour vous. Net d'impôts, hein, je le rappelle, en ce moment, ça fait pas de mal. 100 000 euros pour vous et 20 000 euros pour la personne de votre choix. Alors attention, un proche, un ami, de la famille, mais il faut que cette personne nous dise qu'elle écoute RMC quand on l'appelle. C'est la seule condition. Sinon, ça fait 120 000 euros au total à remporter. On n'a jamais offert ça sur RMC. Pour jouer, vous envoyez tout de suite RMC au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour jouer. Alors on va regarder l'heure. On va être gentil, on va dire il est 8h21, précisément, je note. 8h21, vous avez jusqu'à 8h31 pour jouer. Mais en fait, c'est maintenant. Hein. Vous mettez sur le bas-côté, vous prenez votre téléphone, vous envoyez RMC au 7-32-16. Et peut-être, c'est tout ce que je vous souhaite, peut-être que lundi, vous serez tiré au sort pour gagner 120 000 euros. RMC au 7-32-16.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Dans un instant, vous restez sur RMC et BFM TV, le face-à-face avec Didier François, consultant défense de BFM TV, invité de Laurent Neumann.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Laurent Neumann.
Il est 8h28 sur RMC et sur BFM TV. Bonjour Didier François.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste défense BFM TV. On avait vraiment besoin d'un expert ce matin pour revenir évidemment, bah oui, sur les propos du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Oui, ça fait jaser, ça fait beaucoup réagir. Il y a eu de la sidération, de l'inquiétude, beaucoup de critiques aussi. Je vais relire ses propos hein, prononcés devant le Congrès des maires. Il dit ceci: si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, ajoute-t-il, s'il n'est pas prêt à souffrir économiquement, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. D'abord, je voudrais essayer de comprendre, Didier François, quand il dit perdre nos enfants, de quels enfants parle-t-il? Est-ce qu'il parle juste des militaires, où il parle de chacun de nos enfants dans chaque famille de France.
Mais ce sont les, en fait, les soldats et les militaires sont les enfants de la nation.
Bien sûr.
Il y a quand même une petite hypocrisie à s'emballer là-dessus. Je rappelle que la semaine dernière, c'est le 11 novembre, et que tous les dirigeants politiques, le bleuet, et ce qui est bien normal, à la boutonnière, sont allés devant les monuments aux morts, où c'était justement nos enfants morts pour la France. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire d'un point de vue militaire. Ça veut dire ce qu'a voulu rappeler le chef d'état-major des armées, c'est que dans un monde qui devient de plus en plus violent, où nos adversaires n'hésitent plus à recourir de manière totalement décomplexée à la guerre et à l'affrontement au rapport de force, rappelons que la liberté a un prix, et que le prix de la liberté, c'est pas seulement les armes, c'est pas seulement le budget, c'est la volonté de vouloir défendre ce que nous sommes et ce pourquoi nous vivons.
Alors
simple que ça.
On va revenir sur les raisons de ces propos, mais d'abord quelques questions que tout le monde se pose. Le chef d'état-major des armées qui parle devant le Congrès des maires, il le fait avec le feu vert du président de la République. Je me suis demandé tout simplement si le président de la République avait même relu son discours et les propos qui font jaser, comme vous dites.
Alors relu, honnêtement, j'en sais rien. Je vais pas poser la question au chef d'état-major des armées. En revanche, ce qui est logique, c'est qu'il soit intervenu devant les maires après être intervenu devant les députés, et cela dans un cadre de présentation de la situation stratégique générale aux élus de la République. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous la séquence, on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais pas du tout. En fait, le président de la République s'est exprimé le 1er, le 13 juillet dernier, sur la présentation, lors des vœux à la nation et aux armées, de la revue stratégique nationale, dans lequel on explique qu'aujourd'hui, l'un des risques que l'on peut avoir à faire face, c'est un risque d'engagement majeur des armées françaises en Europe, hors du territoire national, puisque le territoire national, lui, il est protégé par la dissuasion nucléaire, il est sanctuarisé. En revanche, si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, la Russie revigorée avec une armée qui s'est reconstituée après la guerre en Ukraine, parce que pour l'instant, elle est usée par la guerre en Ukraine, mais on voit bien qu'ils sont sur un modèle de croissance qui fait qu'ils testeraient la solidarité européenne à un moment où les Américains ne sont pas sur le territoire.
J'essaye de faire de la pédagogie pour ceux qui nous écoutent sur RMC ou qui nous regardent sur BFM TV. Donc vous êtes en train de me dire que ce qu'a dit Fabien Mandon, il faut nécessairement le relier à ce qu'avait dit son prédécesseur Thierry Burkhard. C'était le 11 juillet dernier. Absolument. Juste avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. On va reciter ses propos. La Russie a identifié la France comme son principal adversaire en Europe. Ça veut donc dire qu'il faut clairement se préparer à quelque chose de sérieux avec la Russie?
En fait, l'idée, c'est de se dire, si on est prêt à ce scénario d'affrontement, eh bien, on va le dissuader. Le problème, c'est qu'il faudrait pas que la Russie fasse un mauvais calcul.
L'idée, c'est pas de faire la guerre, mais de tout faire pour l'empêcher.
Bah, c'est toujours la même chose. Le rôle des armées, c'est d'empêcher la guerre. D'abord parce que les armées, c'est les premiers qui seront. La nation serait engagée dans la guerre serait une catastrophe. Donc, l'idée, c'est d'être suffisamment fort avant et de montrer notre détermination pour que l'adversaire ne fasse pas d'erreur de calcul et ne se dise pas, oh là là, il y a tous les herbivores là-bas qui sont dans le pré, ils
les
sont pas prêts à se défendre.
C'est l'expression d'Emmanuel Macron.
Oui, mais c'est pas que lui, en fait. Regardez, c'est étonnant, on a toujours ce débat très franco-français. Hier, le chef d'état-major de l'armée suédoise a dit la même chose. Le polonais dit pareil, les Allemands disent, eux, 2029. Donc voyez bien que tous les Européens voient ce qui se passe. Ils voient deux choses, ils voient un retrait américain de l'Europe, ils voient une montée en puissance de la Russie, et donc la question qui se posera, c'est comment éviter, alors qu'on a perdu... En fait, ces deux protections, entre guillemets, comment éviter que la Russie ne fasse une bêtise en allant tester les pays baltes, ou tester les polonais, ou tester les moldaves, qui ne sont pas dans l'OTAN? Et qu'est-ce qu'on ferait si demain, un pays européen avec lequel on a une monnaie commune, une économie commune, une énergie commune, des valeurs communes, des institutions communes, était attaqué ou testé? On serait bien obligé d'y aller.
Il y a une autre question que beaucoup de gens doivent se poser. Pourquoi nous? Pourquoi la Russie a identifié la France comme son principal adversaire? Je rappelle quand même qu'on a la puissance nucléaire, on a une vraie puissance militaire, on a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire que tout ça ne nous protège pas, si. On ne nous protège plus.
Si, au contraire, ça nous protège, mais c'est ce qui nous permet aussi d'organiser la résistance. Vous avez bien compris que, par exemple, la coalition européenne aujourd'hui se fait autour de deux pays, qui sont les deux seuls pays qui ont l'arme nucléaire, qui sont la Grande-Bretagne, qui ne sont plus dans l'Union européenne, et la France. Pourquoi ? Parce qu'avec un retrait américain, c'est les deux seules puissances qui restent sur le continent européen, dotées et donc capables de dire à la Russie, on n'a pas peur. Voilà, les autres sont plus dans une situation plus inquiétante. Donc ils sont obligés de s'appuyer sur une partie de notre dissuasion pour pouvoir réagir. Donc les Russes le savent parfaitement. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils font ce qu'on appelle de la guerre hybride. On va pas avoir un déboulé de char sur les Champs-Élysées, soyons sérieux, ça n'a aucun sens. En revanche, le risque évidemment, c'est un ce qu'on appelle cette fameuse guerre hybride, c'est-à-dire la guerre informationnelle, parce que sur le débat, je peux vous dire que les trolls russes, ils y vont sacrément sur la
Et il faut le dire, ça n'arrive pas qu'en France hein, il y a une voie ferrée qui a été sabotée en Pologne ce week-end, c'est tous les jours en Europe.
Donc le chef d'état-major des armées est dans son rôle quand il dit aux maires de France, qui seront, après l'avoir dit aux députés, c'est ce qu'il avait fait dans un premier temps, attention, il faut que vous soyez prêts à pouvoir organiser la résilience de la nation, c'est autour de vous que se ferait, par exemple, la mise en place des structures hospitalières, des trains, des hôpitaux, des aéroports, enfin de tout ce qui serait la logistique et le fait qu'une nation tienne face à une agression. Donc il est totalement logique que le chef d'état-major des armées aille s'appuyer, et c'est ce que prévoit la revue nationale, sur ce qui fait la résilience de la France. Mais on avait l'habitude de
la
ça.
La revue nationale, pour ceux qui nous écoutent d'un mot.
La revue nationale stratégique, en fait, c'est l'analyse qui est faite par les services de renseignement et l'ensemble des services de l'État des risques majeurs et qui disent, voilà, on a une hypothèse. L'hypothèse est que d'ici 2030, si on est capable de dissuader une attaque russe majeure en pouvant projeter l'ordre de 30 000 hommes en dehors de nos frontières aux côtés d'une force européenne, eh bien, si on est capable, ça ne veut pas dire que ça va arriver, si on est capable de répondre à ce scénario-là, on est capable de répondre à tous les scénarios de crise. Le but du jeu, encore une fois, c'est de dissuader la guerre, c'est de gagner la guerre avant la guerre.
C'est très clair. Didier François, je le disais en vous présentant, vous êtes vraiment un expert de ces sujets-là, et moi, en écoutant Fabien Mandon, je me suis dit, mais est-ce que le haut commandement militaire, nos services de renseignement, savent des choses ? J'imagine que oui, que nous ne savons pas. Par exemple, sur les intentions précises des Russes, ou sur l'écroulement potentiel des Ukrainiens là dans leur guerre d'ici quelques semaines ou quelques mois. Est-ce qu'ils ont entre leurs mains des informations que nous n'avons pas et que vous d'ailleurs vous avez peut-être ?
Non, alors encore une fois, les services de renseignement essaient évidemment de décrypter, mais on peut pas être dans la tête de Poutine, hein, que les choses soient claires. En revanche, il y a des choses que l'on peut voir, et pas seulement les services de renseignement. On voit bien que depuis 2008, la Russie monte en gamme et qu'elle est de plus en plus agressive. Géorgie, Syrie, prise de la Crimée, attaque de l'Ukraine. Donc on voit bien la tendance. On voit bien la Chine aussi. N'oublions, parce que nous, on est toujours ultra franco-français et puis très européen centré. Mais les Américains, pourquoi ils se retirent de l'Europe ? Parce que eux estiment qu'entre 2027 et 2030, il y a un véritable risque que Xi Jinping veuille reprendre Taïwan. Et ils disent, si nous, on est occupés à Taïwan, on ne pourra pas s'occuper de l'Europe. Donc, grosso modo, démerdez-vous. Et donc, tout le monde a ça en tête. Tout le monde sait que c'est pour ça qu'on accélère le tempo pour pouvoir être prêt au cas où. Parce que, encore une fois, alors, moi, je suis un vieux con, donc j'ai l'habitude. Dans les années 80, on avait la guerre froide, on savait ce que c'était. On faisait notre service national, on avait ces structures de l'OTAN qui faisaient que, bah voilà, des troupes pouvaient transiter par la France pour aller des ports de l'Atlantique jusqu'à l'Est. Tout ça, on vivait avec. Il se trouve que pendant 30 ans, on a eu une période de paix totalement exceptionnelle en Europe de l'Ouest, et que donc on a un peu oublié ses fondamentaux, et que donc maintenant quand on nous dit que la pluie mouille, oula, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais en fait on vit très bien avec. On a vécu, toute notre génération a vécu avec ça.
Vous m'avez répondu sur les possibles intentions russes, et là on analyse les faits, mais il y a aussi le possible écroulement de l'armée ukrainienne. On entre dans un hiver qui s'annonce à nouveau extrêmement long. On voit les coups de boutoir qui sont portés sur la ligne de front. On parle quand même de centaines voire de milliers de morts tous les jours. Et est-ce que nous avons un certain nombre d'informations qui pourraient nous laisser penser que les Ukrainiens pourraient s'écrouler dans les semaines ou les mois qui viennent ?
Alors, un effondrement, non, on n'y croit pas. Là, aujourd'hui, il y a une poussée russe qui est due à de la conjonction. Mais, alors, premièrement, c'est intéressant l'Ukraine. Pourquoi ? Que les choses soient claires, les paroles du chef d'état-major ne consistaient pas à dire on va envoyer nos troupes en Ukraine combattre la Russie. Enfin, que là aussi.
Mais c'est bien de le redire.
Non, mais je préfère le redire parce qu'il y a quand même, voilà, les hommes politiques qui jouent avec ça. Ils savent quand même exactement que c'est pas vrai. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple l'Ukraine. Bah non plus, ils voulaient pas la guerre. Hein, eux aussi, ils voulaient la paix. Eux, ils perdent leurs enfants tous les jours. Il y a 1000 morts par jour au moins côté russe, et c'est très élevé côté ukrainien. S'ils avaient pu l'éviter, ils auraient préféré le faire. Et ils l'auraient évité s'ils avaient été forts. Aujourd'hui, je pense pas qu'ils vont s'écrouler. En revanche, ils ont un vrai problème de mobilisation. Pour le coup, quand on discute avec des commandants ukrainiens sur le front, leurs unités, elles sont à 70% parce que simplement de leurs effectifs au lieu des 100%, ce qui fait que c'est difficile de tenir le front, parce que justement, ils ont refusé de mobiliser les jeunes de 18 à 25 ans, pour dire la moyenne d'âge dans les tranchées en Ukraine, c'est 42 ans. C'est quand même élevé. Et c'est difficile. Quand on discute avec eux, ils disent, attention, une guerre face à un pays comme la Russie, qui n'a pas peur des pertes et qui s'en fout complètement, en fait, parce que son opinion publique va pas renverser Poutine, qui tient ça d'une main de fer.
On parle de plus de 300 000 morts et blessés russes depuis le début de la guerre.
Donc ça fait 100 000 par an, quand même, à la louche. Non, mais c'est ça qu'essaye de rappeler le chef d'état-major des armées aux Français, qui évidemment, heureusement, et tant mieux, vivent bien. Donc attention, le monde n'est pas le monde de bisounours que l'on croit parfois. Mais ils sont pas prêts de s'effondrer. En revanche, ils ont un problème, comme ils ont pas d'hommes, ils dépendent des drones pour se défendre. Or, il se trouve que les 10 derniers jours, il y a un brouillard de chiens qui est sur toute la ligne de front, et que donc les Russes, eux, envoient des vagues humaines, et que comme les drones, ben, ils fonctionnent pas, ça recule. Alors, ça veut pas dire que l'armée ukrainienne est en bon état, mais elle est pas à l'état de s'effondrer. Et puis la deuxième chose, j'imagine qu'on allait y venir, le plan de paix.
Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que on se dit, mais peut-être que dans l'esprit des Européens, on se dit que ce plan de paix sur lequel Donald Trump est censé travailler depuis des mois, peut-être qu'il n'a aucune chance. Il y a un plan de paix qui a été présenté, il est en 28 points. J'en résume les principaux. L'Ukraine doit céder les territoires déjà occupés par la Russie, c'est-à-dire la Crimée, les quatre oblasts du Sud-Est, dont l'intégralité du Donbass, si j'ai bien compris.
Ça, c'est l'article 21. Oui, en fait, ils disent reconnaissance de facto que l'Ukraine se retire de la totalité du Donbass. La ligne dans laquelle il serait retiré serait une zone démilitarisée, donc une reconnaissance de facto des conquêtes et un arrêt de la ligne de donc ça c'est Donbass.
Et l'Ukraine serait amputée de la moitié de ses forces militaires.
En fait, c'est 600 000 hommes.
Pardon de le dire comme ça. En fait, c'est pas un plan de paix. On demande à l'Ukraine de capituler.
À ce stade, en fait, on est dans la logique de ce qui avait été déjà présenté à cet été, qui est une logique de capitulation. Le problème étant que, en fait, vous le voyez bien, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est eux qui, en fait, usent l'armée russe. L'économie russe et le système russe est organisé pour recruter. Ils sont à 20% en plus de leurs objectifs de recrutement. Ils ont aujourd'hui une armée à 1 200 000 hommes et ils produisent des armes à une tendance extrêmement forte. Une des inquiétudes, par exemple, des Européens, c'est demain, paix en Ukraine. Tant mieux, honnêtement. Mais l'armée russe, elle continue de croître, l'économie russe continue.
C'est ce que j'allais vous dire. Parce que ce sont des conditions inacceptables pour l'Ukraine, mais ce sont des conditions inacceptables pour l'Europe et la future sécurité de l'Union européenne aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut se préparer à la suite.
Eh ben, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, le jour où ça s'arrête en Ukraine et que la Russie continue de monter en puissance, eh ben, le risque, c'est que son appétit se porte sur d'autres. Et pareil. Ça sera pas du déboulé de char, ils sont pas fous. Mais exemple bête, demain, un groupe de paramilitaires pro-russes en Estonie, au nom de la défense d'une minorité russophone, décide de saisir 40 km² en Estonie.
Qu'est-ce qu'on dit aux Français? C'est compliqué de leur dire il faudrait aller mourir pour l'Ukraine, mais alors c'est encore plus difficile de leur dire d'aller mourir pour Riga, pour Vilnius ou pour
Le problème c'est que c'est exactement ce que disait Marcel Déa en 1939, c'est-à-dire on va pas mourir pour Danzig, et moralité, on s'est tapé 50 guerres. Donc le problème c'est justement pour éviter de se taper les 50 guerres, il vaut mieux être fort avant pour que l'adversaire ne soit pas tenté de faire une bêtise.
Vous comprenez quand même que ce climat soit terriblement anxiogène, ça arrive au moment où Matignon diffuse un guide de survie à tout le monde. Et alors, j'ai appris que Taïwan faisait exactement la même chose. Là, c'est pour se prémunir de l'invasion potentielle des Chinois à Taïwan. Mais en réalité, il y a plein de pays qui font ça, non ?
Mais en fait, tous les pays font ça. Enfin, tu veux dire, un sac de crise, c'est un sac de crise. Que ce soit une crise naturelle, une guerre ou autre chose, il faut de l'eau, faut de la bouffe, faut de quoi faire du feu, il faut de quoi se couvrir. Enfin, c'est le béaba quand même.
Mais là aussi,
parfaitement normal. Malheureusement, dans le monde, on a cru pendant des années que, pendant les 30 dernières années, que la parenthèse exceptionnelle de paix que nous avons vécue était la norme. On est en train de se réveiller. Alors, c'est évidemment difficile pour l'autruche de sortir la tête du sable parce que c'est désagréable. Honnêtement, ça gratte. Mais en fait, la vérité, c'est ça. C'est qu'on revient à un monde normal tel qu'on connaissait avant.
Il y a autre chose qui risque de gratter. J'ai vu que Emmanuel Macron s'apprêtait à prendre la parole le 27 novembre prochain. Il va faire un déplacement dans les Alpes. Et alors, on parle d'un retour du service militaire. Alors, retour n'est pas le bon mot. Oui. Mais d'un service militaire qui pourrait s'adresser à 10 000 soldats, nouveaux soldats, des jeunes majeurs, hommes et femmes d'ailleurs. d'ailleurs, un garçon et fille volontaire, potentiellement payé, c'est une demande de l'armée, c'est une nécessité absolue. Alors, en fait, où en est le projet pour ce que l'on
en
sait?
Pour l'instant, en fait, il y a un besoin. Vous voyez bien qu'il y a un besoin. L'armée de terre recrute tous les ans 16 000 jeunes, hein, quand même, que les choses soient claires. Et ça marche très bien. Il n'y a pas de sujet de là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude sur le patriotisme de la jeunesse et son engagement pour défendre le pays. En revanche, il y a un vrai besoin de ce qu'on appelle un peu de masse. C'est-à-dire que on a les armées qui sont taillées depuis des années. Et donc, aujourd'hui, il y a une réserve. Et l'idée étant de faire un service militaire, pour le coup, volontaire. Donc, à la louche, les études aujourd'hui, ce qui est proposé, de toute manière, le président tranchera et puis il expliquera, mais ce qui est le plus facile de faire aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est effectivement sur un volume de 10 000 hommes, un peu sur le modèle mais du service civique.
Pardon, on a l'argent, on a les infrastructures, on a l'encadrement militaire pour s'en occuper.
Alors justement, c'est pour ça que comme on va parvenir à une classe d'âge entière, une classe d'âge, à l'époque c'était que les garçons, c'était 400 000 hommes, aujourd'hui c'est 800 000 jeunes, ça, aujourd'hui, une classe d'âge qui vienne pendant un an faire un service national, on n'en a pas les capacités. En revanche, une remontée en puissance, c'est-à-dire donner à des jeunes qui veulent le faire la capacité d'apprendre comment se comporter, qu'est-ce que c'est qu'une arme, qu'est-ce que c'est qu'une manœuvre, etc. Donc un vrai service militaire, une formation. Si vous en formez 10 000 par an, ça vous fait 100 000 sur 10 ans, c'est déjà pas mal pour avoir une petite base. Après, ça pourra monter en puissance. Mais à ce stade, voilà, sur le modèle du service civique, c'est à peu près ce qu'on peut faire de plus efficace.
J'ai gardé le plus difficile, peut-être d'ailleurs le moins intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez pour la fin. Les réactions politiques au propos du chef d'état-major des armées, on a entendu certains à gauche dire c'est des va-t-en-guerre, oui, d'autres dire c'est inutilement alarmiste. J'ai même entendu un élu du RN dire il n'est pas légitime à dire tout ça. Comment vous avez réagi, vous, le spécialiste de ces questions?
D'abord, moi, je suis pas surpris parce que c'est en fait, encore une fois, c'est la pluie, ça mouille. Oui, à la guerre, on en a des morts. Juste une chose pour ceux qui disent que c'est pas légitime. Quand les responsables des services de renseignement intérieurs ou extérieurs viennent mettre les élus français en garde et les Français à travers eux contre la menace terroriste islamiste, par exemple, ils sont dans leur rôle et c'est normal. Et là, ça couine parce qu'on dit que c'est des Russes qui viennent nous emmerder. Non, mais voilà. Enfin, il y a un moment, faut rester raisonnable et arrêter les chicailleries politiciennes. On a le droit de pas aimer un gouvernement, un président, etc. Mais enfin, le pays, ça reste le pays. Donc, indépendamment de tout ça, je pense que le chef d'état-major des armées est dans son rôle en disant attention. On est quand même dans une situation de tension internationale que vous, peut-être, n'avez pas totalement réalisé et que pour être efficace et pour être crédible, eh ben, il faut dire que on est prêt à défendre notre liberté. Elle a un prix.
Merci Didier François d'être venu éclairer ces propos du chef d'état-major. Il est très précisément 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Laurent Neumann. Dans un instant, c'est la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur RMC, sur une semaine riche en actualité.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Patrick Sébastien était l'invité d'Apolline et il est resté face à Canteloup.
Bonjour, ça me fait tellement plaisir de voir mon vieux pote.
C'est parti. Jérôme Fourquet dit que vous incarnez la France des campings.
Non mais attends, pourquoi tu me parles de camping? Ça m'énerve, c'est une caricature.
C'est ça.
Les Français qui me suivent, c'est pas seulement ceux des campings, hein, c'est aussi ceux des mobilhomes, hein, des camping-cars, des caravanes avec les gypsies. Hein, voilà. Non, moi, ce que je dis, alors, c'est urgent, faut renverser la nappe et changer la table.
Non, c'est le
faut renverser la nappe, faut changer la table, faut changer le... Bon, voilà, faut renverser la table sans changer la nappe, et ça, c'est pas possible.
Après-midi, les locaux d'RMC et de BFM TV ont été la cible d'une alerte à la bombe. Le bâtiment s'est passé. On revient sur ces événements avec Vincent Moscato, que vous aurez reconnu.
Oh, l'alerte à la bombe. Oh putain, l'alerte à la bombe. Je me suis fendu la gueule tout le week-end. Les mecs de BFM, tu vois qu'ils font les éditions du week-end, ils le savent, Texer, Marshall, ils le savent. C'est que des planqués, tu vois, le week-end. Il semble qu'il n'y a pas d'actu le week-end, ouais. Donc ils font le week-end, tu vois. Tu les aurais, putain, là, ils passent la journée à la machine à café, tu vois, les mecs, les gosses. Et là, putain, alerte à la bombe, là. Oh, putain, alerte à la bombe. Tu les aurais vu étaler dans les couloirs comme s'il y avait une équipe d'All Black au cul, quoi. Dans les escaliers de secours, t'as des gosses, ils se sont fait flasher à 200 km/h avec des saltes d'organes dans le slip, non. Tu vois. En plus, les flics.
On
les
ne
flics,
pas le slip.
Les flics, ils étaient super chauds, les flics, tu vois. À l'endemain, les attentats du 13 novembre, anniversaire, tu vois, les mecs, ils étaient super chauds, ils ont déboulé avec 15 clébards de des mineurs qui te reniflent les couilles comme les chiens truffiers, tu vois.
C'est quand même normal qu'on ait pris toutes les mesures de sécurité.
Ah ben, parlons-en de la sécurité, putain. Là, la fouille pour entrer ce matin, il a vécu Patrick, la fouille. T'as vu la fouille? Tout le monde à poil sur le trottoir. Les mecs ont sorti le badge en disant non, nous c'est bon, ils ont la direction, tu vois. Tu vois, les Caranoni, les Renards, les Nedjari, tu vois. Et ben non, les flics, que dalle. Ils ont dit, ils s'embranlent du badge. Ils ont dit, tout le monde, une main devant, une main derrière. Pas chez vous en avant, éternué. Le premier qui avait le pincet pilé ou un demi-cure-dent, c'était considéré comme une arme blanche et tu partais direct à la santé à bouffer des danettes à la pistache et Sarko.
Emmanuel Macron était avec Volodymyr Zelensky hier. Monsieur le Président, la France a vendu 100 Rafales à l'Ukraine.
Vous me faites sourire, Apolline. Vous êtes naïve. Oui. Vous pensez vraiment, chère Apolline de Malherbe, que l'Ukraine a les moyens de nous acheter 100 avions avec leur pays en ruine et,
non, j'avoue, j'avais un doute.
Et leur billet de banque en papier crépon. Ah, non. Ça, nous acheter des Rafales, ils veulent bien, les Ukrainiens. C'est pour nous les payer. Ils sont là beaucoup moins chauds. Et puis, moi, je veux dire une chose, chère Apolline de Malherbe, je n'ai pas envie de leur offrir mes Rafales. Hein, en 4 ans, nous, la France, nous avons quand même donné pour 20 milliards de matos, que du militaire et du haut de gamme. Hein, et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça? Hein, à regagner 2 pâtés de maison à Mariupol et 3 hectares de champs de patates dans le Donbass. Donc, moi, je vous le dis franchement, cette fois-ci, je vais être payé par l'Ukraine et je veux des garanties.
Alors, c'est d'ailleurs pour l'instant juste une lettre d'intention. Hein.
Oui, ben, ça, c'est juste une lettre d'intention, vous avez bien raison. Là, on est juste au début. Puis je peux vous dire qu'avant de livrer, Volodymyr, je vais lui demander son RIB, hein, sa pièce d'identité, un justificatif domicile et ses 3 bulletins de salaire.
Oui, hein,
les 3 derniers.
Faut être
Et puis, je vais vous dire une chose, je ne fais pas de crédit, je le tiens à Volodymyr. C'est pas la peine qu'il mette son t-shirt vert pour jouer au gars de ses télèbres. Hein.
Le gouvernement veut regrouper toutes les aides sociales en une allocation unique pour économiser des frais de gestion. Tiens, François Ruffin est avec nous. Vous en pensez quoi, François Ruffin?
Apolline de Malherbe.
Oh oui, c'est vous.
Fusionner comme ça les allocations, ça va créer du chômage. Pourquoi? Je vous explique. Avant, avec un seul chômeur, on arrivait à faire vivre 6 fonctionnaires. Hein. Jean-Michel, celui de la CAF, hein, Hervé, celui de la mairie, Gisèle qui remplace Bernard quand il est en arrêt maladie. Je pense aussi à Jean-François qui discute toujours avec Jean-Michel de la CAF, sans oublier bien sûr Jocelyne qui dit toujours « Ah, bel dossier de Monsieur Martin, je sais pas où ça en est, demande plutôt à Jean-Pierre ». Et Jean-Pierre Indispensable qui dit toujours « Je crois que c'est Sébastien qui s'en occupe hein ». Vous vous rendez compte qu'on est en train de détruire tout cet écosystème? Alors je le dis et je le redis, ça suffit.
Jean Lassalle poursuit son one-man show sur les scènes de France. Bonjour Monsieur Lassalle, comment ça se passe cette tournée?
Ne soyons pas modestes.
Non,
c'est un triomphe. Certains, vous savez, Mme Malherbe, M. Dexter, M. Demange, M. Guége, M. Danchamp, certains me comparent déjà à Jean Roucas.
Ah oui.
À Guy Montagnier. Bah, au grand Fernand Reynaud. Les blagues n'ont plus de secret pour moi. Je vous sens gourmand. En cette matinée, il faut le dire, une matinée un peu plombée, j'ai envie de dérider les sourires de chacun d'entre vous, en humaniste que je suis. Et je vous fais un petit échantillon. Pourquoi Jésus ne pouvait pas jouer au football le jour de Pâques?
Je ne sais pas, Monsieur Lassalle.
Parce qu'il était suspendu.
Oh,
voyez, ça, c'est de la blague imparable. De la blague imparable. Et le vin plein air, sans OGM, une blague bio, nourrie au grain.
Ah, oui.
En un mot, c'est du label rouge.
Ah voilà.
J'en ai une autre. Tiens. Je vous en fais une en impro. Tiens, une en impro comme ça, pour vous personnaliser. Pourquoi l'homme qui est à côté de moi, qui s'appelle Monsieur Marshall, hein? Vous savez pourquoi? Parce que comme dans tous les bons westerns, il arrive toujours en dernier quand tout est fini, que tout le monde est mort de rire. Voilà, vous l'avez compris, je suis le Coluche des Bois, le Thierry le Luron des Clairières, le Florence Forestier.
C'est très bon.
Merci.
C'est très bon.
Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi à 8h50 et absolument quand vous le voulez en podcast avec l'application RMC bien entendu. Bonjour Alain Marchal.
Bonjour mon cher Mathieu, bonjour à tous.
Au programme des GG Alain.
Eh bien dans les grandes gueules, dans un instant, nous reviendrons sur les propos du chef d'état-major des armées, largement critiqué, notamment dans la classe politique. Mais finalement, est-ce qu'il a tenu le langage de vérité de Général Mandon ? Vous venez en parler avec les GG au 32-16. Le Sénat qui augmente la TVA de 5,5 à 20% sur les petites bouteilles d'eau minérale. Tiens, encore une taxe. Les salariés de la BNP qui vont quitter le nord de Paris parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Il y a pourtant 18 vigiles qui accompagnaient les salariés dans ce quartier de Paris qui, c'est vrai, n'est pas des plus sécures. Et puis, on reparlera de ce que veut faire Sébastien Lecornu, donner une prime de 500 euros au maire. Et nous recevrons Nicolas Dupont-Aignan. Voilà le programme des grandes gueules.